Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepp.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, cerca l'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio EPP, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume!
Salut Johan, bonjour tout le monde. Écoute Johan, très heureux de te retrouver de manière plus fréquente. Ça faisait longtemps et ça fait du bien.
Exactement. Et en plus, on a de très bons retours sur les formats plus courts comme ça, un petit peu liés à l'actu pour certains. Aujourd'hui, on va pas faire de l'actu, on va faire un débriefing de match et on le fera plusieurs fois cette saison quand il y a un match qui a une importance particulière, qui a un intérêt qu'on souhaite développer sur une équipe en particulier, peut-être sur un joueur, sur un entraîneur, sur une situation donnée. Et d'ailleurs, Guillaume, aujourd'hui, on va donc faire ce débriefing et on a choisi le match entre Bologne et Naples. Alors, c'est pas le match le plus spectaculaire parce qu'il n'y a pas eu de but, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire dans ce match de la cinquième journée de Serie A. Ça nous permettra aussi d'évoquer un petit peu ce qui se passe à Naples et autour de Rudy Garcia. Guillaume, ce match, donc je l'ai dit, match nul 0-0, on commence par le match en lui-même, hein, avant d'élargir sur un peu plus de sujets et prendre un peu de hauteur par rapport à cette rencontre au début de saison du Napoli. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match?
Écoute, on peut pas dire, alors sur le papier, c'est vrai qu'après ce match, le Napoli avait les moyens de gagner et aurait pu gagner ce match parce qu'il y a eu la barre d'Osimhen, le penalty raté, évidemment. On peut pas dire que le Napoli a fait un très mauvais match, mais si on le contextualise à la période actuelle et au début de saison, forcément, ça confirme quand même les grandes difficultés qu'on avait évoquées dans le podcast spécial Naples, où vraiment au fil des matchs, en fait, on voit quand même peu de progrès, où on a toujours autant de mal à comprendre cette équipe qui vraiment, pour moi, actuellement joue contre nature. C'est-à-dire que tu sens que Garcia, évidemment, veut, ou du moins lui a décidé de vraiment faire une rupture avec ce qu'a fait Spalletti. Et d'ailleurs, en fouillant un peu Johan dans les conférences de presse, il y a une phrase, moi, qui m'avait marqué, où un journaliste lui parle du passé, tu sais, du passé récent avec Spalletti, évidemment. Et lui répond, bah, le passé, moi, je le connais pas. Et en fait, tu sens qu'il y a vraiment un point de rupture avec ce qui a été fait avant par Spalletti, qui est parti, évidemment, en fin de saison dernière. Et c'est vrai que, bah, voilà, là, bah, tous les mêmes dans le jeu. Il y a beaucoup de joueurs qui sont un contre-courant. Et pour moi, l'exemple le plus éclatant, Johan, tu m'en parleras après, peut-être de Lobotka, voilà, qui est vraiment, l'ombre du joueur, et encore l'ombre, c'est peu dire, du joueur et des tâches qui lui étaient données par Spalletti la saison dernière. Donc vraiment, c'est un match que le Napoli, voilà, aurait pu gagner d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a eu les occasions, il y a eu des moments pour le gagner, les situations, avec un Kvaratskhelia quand même que j'ai retrouvé un peu, on va dire, alors sur 2-3 actions individuelles. Alors ça venait pas du collectif, c'est ce qui est aussi inquiétant du côté de Naples. Mais on va dire qu'il y a eu quelques coups d'éclat individuels de Kvara. Mais c'est trop peu quand t'es champion d'Italie. Après voilà, il y a aussi beaucoup d'absence, hein, en défense. Juan Jesus, Ravrani qui s'était blessé peu de jours avant même. Donc voilà, il y avait un contexte un peu compliqué, mais en tout cas toi Johan, t'aimes bien ce que tu penses, mais dans le jeu, il y a vraiment une équipe qui est en difficulté, vraiment qui a du mal à absorber les nouveaux principes de jeu, les nouveaux concepts de jeu. Et les nouvelles valeurs qu'essaie de donner Garcia. Et on voit bien qu'il y a une espèce de, pas de conflit, tu vois, mais une espèce d'incompréhension entre l'équipe, les joueurs. Et Garcia, on parlera tout à l'heure, évidemment, de la nervosité ambiante à Naples. Mais en tout cas, si on parle que du terrain, que du jeu, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a toujours autant de difficultés, pour le Napoli de Rudy Garcia.
Alors moi, j'ai bien aimé la première mi-temps, du Napoli, ouais, contre Bologne. Je trouve que, sans être le jeu flamboyant de Spalletti, mais, déjà, il y a un point essentiel en fait qu'il faut mettre en avant, c'est que si les gens pensent, quand je dis les gens, c'est les supporters napolitains, l'environnement médiatique de Naples, on peut même élargir aux simples passionnés de football, hein, mais si les gens pensent que c'est possible de répéter la saison qu'a fait le Napoli la saison dernière avec des résultats extraordinaires, des prestations extraordinaire, parfois c'est pas toujours relié, et un jeu extraordinaire, je pense qu'il faut tout de suite qu'il s'enlève cette idée de la tête. Ça n'arrivera pas, c'est arrivé une fois, on a parlé de saison extraordinaire, si on prend au point de vue sémantique, extraordinaire, ça veut bien dire que ce n'est pas l'ordinaire. Combien de saisons les Napolitains ont-ils vécu avec cette qualité de jeu, avec la qualité des prestations et la qualité des résultats? Zéro dans l'histoire du Napoli. On peut reprendre le Naples de Maradona. Jamais de la vie, le Naples de Maradona jouait aussi bien que le Napoli de Spalletti. Combien de fois, Guillaume, on a eu un champion d'Italie qui jouait un tel football depuis 2000?
Très peu. Quasiment jamais.
Parce que même si on reprend le Milan de Pioli, ça jouait très bien, mais il n'y avait pas cette qualité de jeu. Et pourtant, on était les premiers à souligner que ça faisait du bien d'avoir un champion protagoniste. Qui allait chercher ses matchs, allait chercher les résultats à travers le football. Donc ça, c'est le premier point. Il faut vraiment, je pense que c'est en ce sens ce que veut dire Garcia, mais qu'il l'a très mal dit, et que effectivement c'est pas un truc que tu dois dire, parce que déjà lors de la première conférence de presse, ne pas mentionner Spalletti ou un peu botter en touche, je trouvais pas ça
classe.
Même sans classe en fait. Parce que tu peux toujours dire, Spalletti a pris la suite de Garcia à Rome, machin, etc. Mais je trouvais pas ça très finement joué, en fait. Parce que t'arrivais quand même en terrain conquis, avec enfin, tu n'arrivais pas en terrain conquis, justement, parce que t'avais un Spalletti qui avait laissé une telle empreinte et une telle marque que il fallait quand même reconnaître aussi ce qui s'était passé de bien au Napoli. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais quand même dire, c'est que, quel que soit l'entraîneur qui allait succéder à Spalletti, il aurait eu de très grandes difficultés pour ce premier point que j'ai développé, c'est-à-dire qu'on aurait comparé sans arrêt ce qu'il faisait avec ce qui a été fait par Spalletti. Et c'est tentant de le faire, mais en fait, je pense que c'est rater quelque chose, parce qu'en fait, comme je l'ai dit auparavant, tu ne peux pas répéter cette qualité de football. Tous les entraîneurs ne sont pas égaux en termes d'idées, de travail, de d'organisation, et donc c'est impossible. Tu sais, dans les noms qui étaient évoqués, il y avait Antonio Conte aussi. Il y avait qui est-ce qu'on avait, je me souviens même plus. On avait même le retour de Benitez.
Même Galtier, voilà. Hein, il y avait Galtier. Aussi,
en fait, voilà. Ces footballeurs, ces entraîneurs, pardon, n'avaient rien à voir avec Spalletti. Donc c'est très difficile de comparer. Pour revenir au match lui-même, effectivement, moi j'ai bien aimé la première mi-temps, sans le côté comment dirais-je, spectaculaire, très esthétique qu'avait le Napoli de Spalletti. Mais comme j'ai dit, on le met de côté. En deuxième mi-temps, ce que j'ai moins aimé, c'est que il y avait moins de domination, qu'il y avait... Alors j'ai l'impression que c'était pas voulu, parce que Garcia, en après-match, a dit, dans le vestiaire, on s'était dit qu'il fallait continuer, comme sur la première mi-temps, à presser haut, récupérer des ballons, etc. Et c'est pas forcément ce qu'on a vu sur la deuxième mi-temps. Et donc, est-ce que c'est... On parle beaucoup d'un problème physique hein, aussi au Napoli, on y reviendra après, mais sur ce début de saison-là, on trouve que les joueurs sont pas à 100% physiquement comme ils avaient pu l'être la saison dernière. Et d'ailleurs, dans l'extraordinaire saison passée, il y a aussi le très faible nombre de blessures qui ont aussi aidé à faire en sorte que Spalletti puisse aligner le même 11 assez régulièrement. Donc la deuxième mi-temps, moi, elle me laisse un goût un peu bizarre parce que je ne m'attendais pas à cette deuxième mi-temps après avoir vu la première. Est-ce que le Napoli, pour le moment de ce début de saison, m'enchante ? Non. Est-ce qu'il est si catastrophique que certains veulent le faire croire ? Non. Évidemment, non. C'est la même chose. Il y a un juste milieu entre les deux, en fait. Sur ce match-là, comme depuis le début de la saison, tu as des individualités qui ne te permettent pas d'au pire avoir au moins le résultat par rapport à la prestation. Ou en tout cas, par rapport à une prestation totalement aboutie. Osimhen rate un penalty. Guillaume, entre parenthèses, qu'est-ce que tu penses de ce penalty sifflé ?
Bah écoute, moi honnêtement, je pensais qu'il aurait été annulé par la VAR. Parce que c'était tellement
absurde.
Flou. Ouais, tellement... En fait, tu sais, quand il y a doute, il y a forcément VAR. Hein, sauf si c'est vraiment évident. Et ouais. Je vis sur le terrain, mais pour le coup là, même en lisant un peu la presse ce matin avant qu'on enregistre, ce lundi matin, honnêtement, personne n'a trop compris la confirmation du pénalty. Qu'il soit sifflé, c'est une chose, mais en période de VAR, le fait que ça revienne pas dessus, c'est voilà, il y avait beaucoup de surprises. Bah,
et puis tu sais, j'ai écouté Luca Marelli sur DAZN, et lui t'expliquait que le bras allait vers le ballon, mais en fait, j'ai jamais vu ça moi sur les images. Je sais pas, le mec tombe, donc c'est Calafiori, je crois, qui tombe.
Ouais.
Et donc forcément, il met ses mains pour amortir la chute. Enfin, il tend les bras pour amortir la chute. Le fait est que ça rebondit sur une partie de son corps avant de toucher la main. Bon, c'est pas comme si, tu sais, il avait donné un violent coup dans le ballon pour le dégager, ou là, t'aurais eu zéro doute, en fait. Et
ouais,
bon, je sais pas.
La moviole en Italie va dans ton sens, en tout cas, sur
ouais,
le matin.
Ouais, ça m'étonne pas. Et bon, finalement, tu peux te dire que c'est pas plus mal que Osimhen ait raté quand tu te dis que le pénalty n'aurait jamais dû être sifflé. Enfin, ça, c'est des questions d'évaluation. Et donc, Osimhen te rate un pénalty où finalement, est-ce qu'on a tous les débats actuels ? Alors, il y en aurait, mais sans doute un peu moins intense si Osimhen avait marqué son pénalty. On reviendra tout à l'heure sur Guevara, mais Guevara, ok, il a eu quelques accélérations. C'est lui qui amène le pénalty avec. Qui est-ce qui fait la passe ? C'est Zielinski, je crois, hein, qui fait le bon mouvement côté gauche avant de le transmettre. Je crois que c'est Zielinski. À Guevara Trelia, il amène le penalty, mais depuis le début de la saison, Guevara, il a un niveau qui ressemble à celui de la toute fin de saison. C'est-à-dire, il est très loin de ses standards, de ce qu'il avait montré pendant 60%, 65%, 70% de sa première saison en Italie. Guillaume, c'est depuis mi-mars hein, qu'il n'a pas marqué un seul but.
Exactement. Je crois que c'était le match contre le Toro. Donc ouais, c'était au mois de mars dernier. C'est plus.
Donc tu vois, on entend aujourd'hui que si Guevara ne marque pas, c'est parce que le jeu de Garcia ne le met pas assez en valeur. Mais finalement, sur les deux derniers mois et demi de compétition avec Spalletti, un jeu qu'il met en valeur, il marquait pas non plus. Donc c'est un élément à prendre en compte. Et finalement, ce que ce match dit, encore une fois, c'est que la prestation, il y a à boire et à manger, que Naples ne réussit pas, c'est ce que disait Ciro Ferrara en après-match à DAZN, ne réussit pas à avoir l'intégralité d'un match sur une prestation vraiment poussée et linéaire en qualité, Mais malgré tout, normalement, tu es censé pouvoir les gagner, ces matchs-là. Comme tu étais censé pouvoir gagner d'autres matchs précédemment. Je pense à la Lazio, qui a refait le même coup qu'avec Spalletti. Tu sais, je regardais un petit peu les stats avancées, avant de te redonner la parole, Guillaume.
Non, vas-y.
Parce qu'on dit, tu sais, le Napoli se crée moins d'occasion. Le Napoli a moins le ballon. Bah, c'est pas si flagrant que ça, en fait. Alors, l'échantillon est plus court, évidemment. Mais aujourd'hui, le Napoli est à 9,5 expected goals en 5 journées. Il n'y a que l'Inter qui fait mieux. Comme la saison dernière, on retrouve les deux mêmes au même classement. Enfin, en haut du classement, pardon. Et en termes de possession, le Napoli de Spalletti est à 61,8. Encore une fois, l'échantillon était beaucoup plus important, donc c'est plus dur à répéter comme l'a fait Spalletti. Et là, on est à 60. Donc, on n'est pas non plus sur une différence énorme. Donc, il faut bien tout analyser. Est-ce que je m'attendais à des difficultés? Oui, parce que, comme j'ai dit, avec Spalletti, c'était extraordinaire. Et celui qui allait passer derrière, que ce soit Garcia, Conte, vous pouvez me sortir à peu près tous les noms. Même un Italiano, on avait parlé d'Italiano, tu sais. Et
oui, c'est vrai, bien sûr.
On l'adore tous les deux, Italiano, hein, pour le coup.
Bien sûr.
Ils auraient trouvé les mêmes difficultés, pas forcément les mêmes marqueurs, entre guillemets, mais ils auraient eu des difficultés quand même pour faire suite à Spalletti.
Mais tu fais bien de mentionner ça, parce qu'on peut pas. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu simple de jeter en pâture Rudy Garcia, parce que voilà, il arrive aussi d'expérience, on va dire, pas très réussie, même oui. En France, voilà, bon, qui s'exile, donc c'est un peu facile. Évidemment que n'importe quel coach, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Hein, tu pouvais mettre qui tu veux. Honnêtement, il y aurait eu des difficultés, alors peut-être différentes, mais il y en aurait eu.
Voilà.
Et la preuve, Johan, c'est que Spalletti aussi est parti, et il y a eu aucune hésitation de sa part, visiblement, parce qu'il était éreinté. C'est qu'il, lui aussi, au fond, on le savait que c'était impossible de reproduire la saison. Toi, t'as parlé d'extraordinaire. C'est vraiment ça. C'était une saison quasiment, pas dire paranormale, mais en fait, tout a réussi au Napoli.
Ouais, ouais.
Tout tournait dans le bon sens. C'est une équipe qui marchait sur l'eau et qui réussissait tout ce qu'elle faisait. C'était exceptionnel. C'était vraiment une saison qui rentra dans l'histoire de la Serie A tellement elle a été dominée, tellement elle a été, archivé de manière facile. Il n'y a eu aucun doute sur le titre du Napoli. Et le fait que Spalletti s'en aille, Johan, c'est de manière pas facile, parce que ce n'est pas une décision facile pour lui. Mais on a senti que s'il l'a prise, c'est parce que lui aussi, au fond, il savait très bien que ce n'était pas possible de le faire deux fois. Et qu'il préférait partir. Alors lui, il parle d'une saison éreintante, une saison historique, évidemment. Mais il préférait partir sur une bonne note, plutôt qu'entre guillemets de gâcher tout ça sur une deuxième saison. À post-titre, hein, parce que c'est pas sa deuxième à lui, mais on va dire post-titre avec des difficultés qui auraient été évidentes, parce que tu pouvais pas faire mieux que la saison dernière. Et Rudy Garcia, pour le coup, quand même, a eu ce courage-là, parce que faire aussi mieux que la saison dernière, Johan, ça veut dire être champion et quasiment de la même manière, ce qui est totalement impossible. Tu peux être champion, c'est possible, mais l'être de la même façon que l'a été Spalletti avec le même jeu, ça me paraissait assez compliqué. Donc, tout jeter sur Rudy Garcia, c'est beaucoup trop simple. Après, c'est évident, et on va venir au sujet aussi, parce qu'on voit bien qu'avec le groupe, avec certains joueurs, il y a quand même beaucoup de questionnements et de nervosité. Mais voilà, en tout cas, Rudy Garcia a eu quand même ce courage-là de reprendre une équipe avec laquelle il ne pouvait pas faire mieux que son prédécesseur. Voilà, c'est les difficultés, comme tu l'as dit, auxquelles on pouvait s'y attendre, parce que ça semblait compliqué d'imaginer... ce fil conducteur se poursuivre entre la fin de saison dernière et ce début de saison-là. Après, voilà, ce qui est reproché un peu quand même à Rudy Garcia, c'est de vouloir un peu couper net avec ce qui était fait par le passé et tu vois, ne pas s'appuyer, on va dire, sur des fondamentaux, sur des bases que va apporter Spalletti. Et pour finir, Johan, sur ce sujet-là, il y a un auditeur qui m'a écrit sur Twitter en DM qui s'appelle Anton Sack. Alors, je sais pas si son vrai nom, c'est Sacchi, qu'il est de la famille de du bon Rigaud.
Mais c'est un beau nom de famille, déjà.
Exactement. Et il m'a dit, après le podcast spécial Napoli qu'on avait fait, Johan, Samir, c'est d'accord ou pas, il avait dit, un élément important, mais aussi semblait manquer, le fait que Garcia demande au Napoli de jouer de façon, de manière plus directe, ce qui, selon moi, a tendance à faire évoluer cette équipe contre nature dans la construction du jeu et a aussi étiré les lignes, déstabilisant tout le réflexe tactique, surtout défensif, acquis sous Spalletti. Et voilà, c'est ce point-là que lui a voulu rajouter à ce qu'on avait dit avec après le podcast sur Napoli, et lui rajoutait quand même Anton Sacchi, notre auditeur, et qu'on remercie. Il rajoutait, il n'y a pas le feu, mais c'était pendant la trêve, c'était avant le match face au Genoa. Donc,
ouais.
Est-ce qu'il est même à vie aujourd'hui? Je ne sais pas, mais voilà, il tenait à souligner le fait que, tu vois, le Napoli Garcia, voilà, voulait moins la possession, ouais, jouait de manière plus directe, plus rapidement sur Osimhen, et que tous les réflexes tactiques du Napoli de Spalletti, pour le coup, étaient un peu mis à mal.
Alors, que Garcia ait un style plus direct sur le principe, oui. On voit des phases, en tout cas, qui sont beaucoup plus directes, ça c'est clair. Néanmoins, que le Napoli ne veuille plus ballon, bah, bizarrement, c'est pas ce qu'on voit non plus, quoi. C'est-à-dire que j'ai donné les chiffres de possession, par exemple. Hein. Possession, nombre de passes, on est dans les standards de Spalletti, légèrement inférieur. Donc, c'est inférieur, mais c'est légèrement inférieur. Alors après, est-ce que c'est de la possession constructive ou subie, ou ça, on peut toujours l'analyser, etc. Mais que sur le principe, il y a quand même plus de volonté de jouer vertical et notamment de profiter de la vitesse, de la profondeur avec avec Osimhen, ça me paraît assez clair, qu'il y ait moins de patience, en tout cas.
Exactement,
dans l'élaboration du jeu. Tiens, j'ai une petite question pour toi, Guillaume. Je l'avais donné à l'antenne, donc si jamais tu avais écouté, tu auras la réponse. Est-ce que tu sais depuis quand une équipe hors Inter, Milan ou Juve a réussi à gagner le titre deux saisons consécutives?
Ah ouais, là c'est... Alors attends. Alors je peux pas... Malheureusement, je
vais
pas...
Soit tu l'as, soit tu l'as pas, en fait.
Ouais, c'est un peu une question. Un gros blanc. Ça sera un gros blanc de niveau radio, sinon au podcast. Donc je vais donner ma langue au chat. Ce que je te dirais juste avant, Johan, c'est que le Napoli n'avait pas fait un aussi mauvais début de saison comptable, entre guillemets, parce qu'il y a 8 points. Comme tu l'as dit, il n'y a pas le feu, mais on va dire entre guillemets que c'est le plus mauvais début de saison depuis 2005-2006. Voilà.
Donc
voilà,
c'est pas, dis-moi, c'est pas 2015-2016.
Alors écoute, ce matin, à Gazeta, je vais vérifier en direct.
Ouais, vérifie, parce qu'il me semble que j'ai lu 2015-2016 hier.
Alors du coup, quelle était l'équipe qui avait gagné hors top?
Ça remonte, Guillaume, tu n'étais pas né. N'étais pas né, évidemment. Ça remonte à la fin des années 40 avec le Grande Torino.
Ah oui, on était vraiment pas né du tout.
Voilà, donc c'est pour donner un peu l'idée de la tâche. Quand on réclame à Garcia de gagner un Scudetto après un premier Scudetto gagné par le Napoli.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Juste un élément de contexte supplémentaire. Est-ce que tu as retrouvé ta stat ou pas du tout?
Et non, exactement. C'est 2015-2016. Ah, voilà, okay. J'ai vérifié dans les pages de la Gazzetta du jour. C'est exactement ça, c'est Pedro Fatturato, oui, depuis 2015-2016.
Et donc ça fait quand même 8 saisons, 7 saisons.
Exactement, 8 saisons. Exactement. Et on peut rappeler quand même, tu vois, même si le début de saison n'est pas catastrophique, malgré tout ce qu'il peut se dire, on n'est pas bien non plus, mais le problème, c'est que devant Johan, ça avance.
Ah, ça va vite. Hein.
Et que le Napoli est déjà à moins 7 de l'Inter, et 7 points, ça peut être déjà énorme. Notamment en fin de saison.
Mais comme l'a dit Garcia, et visiblement c'est ce que lui a demandé De Laurentiis, hein, c'est d'accrocher le top 4. Et pour moi, c'est un objectif qui est raisonnable, en fait.
Bien sûr, mais c'est compliqué de l'accepter quand tu es champion pour les supporters. Hein. Ça, oui, c'est quelque chose que je peux comprendre.
Bah, moi, je le comprends
quand tu es champion
en fait,
en titre.
Non, moi, je le comprends pas, en fait, parce que souviens-toi déjà ce qu'on disait du Milan de Pioli. On n'a jamais dit Pioli de gagner un deuxième titre. Alors pourquoi on le dit pour Garcia? On n'a jamais dit, quand Milan était champion, on a dit ce qu'ils ont fait est là aussi extraordinaire, la qualité de jeu, machin, etc. Qu'est-ce qu'on a dit pour une saison réussie du Milan au début de la saison suivante? On a dit top 4 et aller plus loin en Ligue des Champions. C'est ce qu'ils ont fait et c'est pour ça que la saison a été jugée satisfaisante. Donc pourquoi un club qui est habitué, entre guillemets, à gagner dans son histoire, hein, moins récemment, comme le Milan devrait gagner un deuxième titre consécutif? On ne donne pas cette obligation au même entraîneur. En plus, c'était le même entraîneur. Alors qu'on la donne à un nouvel entraîneur à Naples, un club qui est habitué à ne pas gagner, en fait.
Au niveau du club, ouais, au niveau du club, je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai qu'à l'époque du Milan la saison dernière, d'ailleurs, Milan qui finit cinquième, hein, mais dans rien, si elle se fait pas pénaliser, c'est cinquième. C'est vrai qu'à l'époque, Maldini et les dirigeants avaient dit, voilà, on devient dans le top 4. Après, je peux comprendre aussi du côté de la piazza, de l'environnement, que c'est forcément une déception quand t'es champion, quand t'as le scudetto sur le maillot. Alors, de finir dans le top 4 juste après, de perdre ton titre, il y a forcément un sentiment de déception. Tu peux pas démarrer la saison, je peux comprendre d'un point de vue des dirigeants, en assurant l'essentiel, en disant, bon, au vu de la saison qu'on a fait avant, du niveau quasiment irrationnel de ce qu'on a pu faire, de le reproduire, c'est quasiment impossible, mais je peux comprendre aussi que les tifosi, voilà, ça te laisse quand même un goût d'amertume. Si tu commences ton début de saison en tant que champion, et que ton objectif c'est top 4, en tant que dirigeant, il y a quand même quelque chose de rationnel. Du côté des supporters, je peux comprendre qu'il y a un peu de, ouais, il y a aussi une envie d'ambition et de confirmer ça, mais c'est certain que.
Ouais, mais après, Guillaume, être ambitieux, c'est bien. Ne pas avoir la raison pour être capable de évaluer ton ambition, je trouve ça problématique.
Et est-ce que les tifosi sont raisonnables, Johan? C'est la vraie question.
Non, bah non, on va en parler après. Non, ils ne le sont pas. Mais c'est dommage parce qu'en fait, le climat que tu crées, bah, ça ne va pas aider le Napoli, en fait. C'est ça aussi le truc. Là, effectivement, le début de saison, de victoire, de nul, une défaite, il n'est pas bon. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon.
Oui, c'est vrai. Exactement ça.
Finalement, tu disais, tu es à 7 points de l'Inter, ce qui est vrai, hein, mais tu n'es qu'à 2 points du quatrième. Donc, il n'y a pas le feu, comme on l'a dit. Par contre, il y a peut-être le feu, où il commence à y avoir un peu le feu, Guillaume. C'est sur un peu les réactions de certains joueurs. Je pense à Kvara contre le Genoa et je pense à Osimhen ce dimanche contre Bologne.
Écoute, alors on peut même dire que la colère d'Osimhen était plus flagrante que celle de Kvara où il était sorti de l'autre côté du terrain déjà, donc ce qui avait changé un peu la donne, où il avait fait un signe de la main, où, bon, c'est un peu aussi de son caractère, Kvara qui est assez introverti, pour le coup il comprenait pas trop et on va dire qu'il avait fait un petit geste où il désapprouvait son changement à Gênes. C'est vrai qu'Osimhen, Johan, hier, on peut dire qu'il a un peu explosé en sortant parce qu'il était face à Rudy Garcia et voilà, il a fait le signe longtemps de deux dans le sens où il voulait deux attaquants parce que c'est Simone qui l'a remplacé. Voilà, lui aurait aimé jouer à deux pointes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la presse, Johan, tous les éditos que j'ai pu lire, même dans le Mattino, dans la Gazzetta, il y avait vraiment dans tous les journaux l'incompréhension des changements de Rudy Garcia quand tu dois gagner un match. Sortir encore Kvara parce qu'il a sorti quasiment tous les matchs et ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu compliqué à digérer pour lui, et sortir Osimhen quand tu dois encore gagner, voilà, ça semblait un peu incompréhensible en amont. Après voilà, le fait d'exploser comme ça de manière aussi flagrante, bon, tu sens quand même qu'il y a beaucoup de nervosité pour le résultat, parce que les résultats n'arrivent pas, pour un jeu qui est un peu latent. Et de ce qui a filtré dans la presse ce lundi matin, c'est que Rudy Garcia et Osimhen ont eu une première discussion post-match dans le vestiaire. Ils vont en avoir une, alors on est le lundi 25 septembre, ils vont en avoir une ce lundi, normalement à Casale Volturno, donc au centre d'entraînement de Naples, pour éclaircir un peu tout ça, pour éteindre ce début d'incendie, comme tu l'as justement dit, parce qu'après, à Naples, tu le sais, ça s'embrasse très vite.
Ouais.
Mais il y a quand même un sentiment, oui, de frustration, d'énervement, d'incompréhension. Et c'est vrai que ça remet en cause un peu l'autorité de Rudy Garcia, qui n'en a pas rajouté après le match. Ouais. Il a dit, on va en parler dans le vestiaire. Il a joué de manière très sobre. Mais voilà, c'est certain que faire ça de manière, on va dire, publique et aussi flagrante, on va dire que ça plaide pas la cause de Rudy Garcia. Encore une
Platéale,
fois.
Platéale.
Ouais, exactement. Platéale, exactement ça. Donc, encore une fois, Rudy Garcia n'a pas toutes les fautes sur ce moment du Napoli. Mais là, vraiment, quand les joueurs, surtout quand Osimhen explose comme ça, ton meilleur joueur, ouais, moi, je trouve que c'est un peu trop flagrant et que pour le coup, ça met à mal l'autorité de Rudy Garcia sur le groupe. Parce que si Osimhen fait ça, Johan, qu'est-ce que pourraient faire les autres?
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas aimé le geste d'Osimhen parce qu'en plus, ça a duré pendant 10 secondes.
Il l'a répété.
Voilà, c'est ça. Garcia a été plutôt intelligent parce que tu sais, il y a des entraîneurs qui réagissent à ça sur le bord du terrain. Et on a déjà vu des vraies engueulades entre joueurs et entraîneurs sur le bord du terrain. Lui, il ne l'a même pas regardé. Donc ça, j'ai trouvé ça bien pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Que des joueurs se permettent ça, par contre, ça dit quelque chose, je pense, aussi. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, Guillaume, c'est ce qu'a dit Di Lorenzo à la fin du match. Di Lorenzo, en zone flash d'interview, nous dit « On va se parler pour que ses comportements, donc il enrobe aussi Guevara, ne se répètent pas, le club n'a pas besoin de ça. » Donc c'est aussi un joli recadrage du capitaine pour les joueurs. D'ailleurs, entre parenthèses, Di Lorenzo me plaît de plus en plus. Parce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment à un niveau en dessous, hein, Guillaume, sur ce début de saison. Guevara qui est un peu dans la continuité de la fin de saison dernière. Anguissa qui est en difficulté, même si hier, c'est sans doute un des
moins mauvais matchs.
Ouais, voilà, c'est peut-être même un des meilleurs du Napoli, je trouve, hier. Oliveira est moins bon. Bon, après, Juan Jesus et Ostica, pour moi, c'est plus une question de niveau et on s'interrogera quand même sur le fait que ça n'a pas plus recruté en défense. Deuxième parenthèse, Nathan, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que la première a été plutôt bonne.
Oui, exactement.
Assez satisfaisant. Mais Di Lorenzo, lui, est bon sur le terrain. Il continue ses bonnes prestations et ce recadrage me plaît beaucoup parce qu'il affirme lui aussi son autorité de capitaine. En essayant aussi de recompacter tout le monde et en laissant pas des brebis s'égarer à des comportements que lui juge non nécessaires dans la période que traverse le Napoli. Garcia a dit en conférence de presse que Osimhen n'avait pas eu la bonne attitude. Donc tout ça, ok. Maintenant, il y a aussi quelque chose, c'est que je trouve que Garcia se facilite quand même pas la tâche. Autant que Vara, moi je comprends totalement le remplaçant contre le Genoa parce que, alors j'ai pas aimé ce qu'a dit Garcia pour parler du remplacement en disant Zerbin s'entraîne bien donc faut le récompenser. Non, à un moment donné t'as besoin de points, t'es pas là pour récompenser un mec qui s'entraîne bien et le faire rentrer 5 minutes à la fin du match. Si tu m'expliques que Zerbin pouvait apporter quelque chose pour X ou Y raison et que Vara ça fait 6 mois qu'il a pas marqué, Là, ça m'intéresse. Mais dire que parce qu'il s'entraîne bien, il doit jouer, en fait, généralement, dans un couple, quasiment tout le monde s'entraîne bien. Donc, ça veut dire quoi? Que tu joues à 25? Pas forcément, en fait, ou que tu fais beaucoup de remplacements? Non. Donc, Vara, je comprenais. Mais Osimhen, j'ai plus de mal parce que tu sais déjà qu'il est en train de bouillir parce qu'il a raté son péno. Tu sais que c'est un caractère volcanique. Et en plus, effectivement, tu peux te dire que tu peux essayer à deux. Ou si c'est pas faire rentrer Simeone, tu peux faire rentrer Lindström en soutien de lui. C'est un aspect un peu plus offensif en passant à deux milieux de terrain. Enfin, il y avait d'autres choses à faire, en fait, si tu veux. Là, je trouve qu'il se facilite pas la tâche parce qu'il a vu ce qui s'est passé avec Vara. Il a vu ce que ça a provoqué comme tourbillon, on va dire, dans l'environnement napolitain. Et il doit savoir que s'il fait la même chose avec Osimhen, ça va recommencer, en fait. Et c'est là-dessus que la gestion, je trouve, elle est vraiment maladroite pour le coup. Et puis même sportivement, moi, aux images, je le laisserai tout le temps sur le terrain quand tu dois marquer un but, en fait.
Et surtout que la fin de match, il est quand même plutôt à sens unique. Ou vraiment... Alors même si Bologne a eu ses occasions, hein, on ne peut pas dire que Bologne a joué que la défense. Mais c'est vrai qu'en fin de match, quand tu dois gagner, parce que ce match-là, Naples devait le gagner, enlever aux images, et t'as utilisé le bon terme, qui bouillait, parce que tu rates un penalty, t'es énervé, t'as envie de te rattraper et forcément, c'est un mélange de sentiments qui a fait exploser Osimhen. Et malheureusement, pour dire ça, c'est que dans la presse aujourd'hui, tu parles quasiment que de ça. En plus des mauvais résultats, entre guillemets, parce que c'est pas non plus catastrophique, tu parles d'un Osimhen qui est en colère, qui a remis en cause son autorité. Donc, c'est vraiment pas se faciliter la tâche parce que Rudy Garcia devait être quand même plus intelligent dans sa gestion, même des joueurs. Hier, tu dois ramener les 3 points d'une manière ou d'une autre et enlever Osimhen quand même qui reste ton meilleur atout pour marquer. Voilà, ça reste compliqué. Et aujourd'hui, après, voilà, je pense qu'Osimhen est quelqu'un d'intelligent et que sur le terrain à chaud et trivolcanique, après, j'ai peu de doutes qu'il va s'excuser à froid aujourd'hui, lundi, qu'il revienne un peu sur son attitude. Mais c'est certain que pour tout l'environnement, Johan, toute la piazza à Naples, ouais, qui est déjà bouillante à Naples, tout l'environnement qui est très tendu, très crispé. D'ailleurs, on l'a vu, hein, le tweet de De Laurentiis juste après le match, c'est surprenant d'ailleurs, où il dit Naples, le Napoli repart de Bologne, bravo tout le monde. Tu sens que c'est quand même pour mettre un verre d'eau dans une pièce qui commence sérieusement un peu à s'enflammer. Donc, c'est sûr que Rudy Garcia aurait pu au moins s'épargner ça ou s'éviter ça.
Ouais.
Et là, il rajoute ça, donc forcément, c'est une petite allumette qui rajoute à un environnement qui commence à être assez chaud à Naples.
Ouais, tu parlais de l'environnement, très court là-dessus, mais il faut quand même rappeler que Les journalistes avaient réclamé la tête de Spalletti, que De Laurentiis lui-même, après le match à Empoli, souviens-toi, avait cherché à la remplacer, que Sarri avait été sifflé et très critiqué par les supporters, par l'environnement médiatique, que Ancelotti était devenu un moins que rien et un imbécile à Naples. Donc c'est, on a Piazza, comme tu dis, qui est très. Pour moi, c'est pas de l'exigence, ça. Pour moi, c'est ne pas savoir gérer tes émotions. Tu sais, c'est une théorie que j'ai souvent développée dans cette
On en
émission.
a parlé
Pour
souvent,
le
on en a parlé
Napoli, pour la
souvent.
Roma, c'est des limites qu'ils imposent à leur club avec ce manque de recul sur les événements qui arrivent. Et bon, on verra comment ça se passera pour Rudy Garcia, mais effectivement, la pression est très présente, pression du résultat, pression du jeu, pression liée aussi au choix de remplacement, notamment. On verra ce que ça va donner et on aura une réponse, une première réponse à très rapidement, hein, Guillaume, puisque on a une journée infrasettimanale, comme on dit en Italie. Donc
Ouais.
ça est Napoli Udinese et mercredi. Donc on aura déjà avec l'Udinese qui va pas bien en ce début de saison. Donc on aura déjà une première réponse hein, sur ce que peut donner le Napoli à domicile avec pas mal de pression. Guillaume, est-ce que tu as un tout petit mot à rajouter sur le Napoli?
Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, on va le répéter, il n'y a pas non plus le feu. Au niveau comptable, c'est pas dramatique, même si devant ça avance. Donc, voilà, on va voir les prochaines semaines. Là, les matchs sont enchaînés, la Ligue des Champions. Voilà, c'est compliqué de dresser un premier bilan après aussi peu de journées, après 5 journées. Donc, encore un peu de patience pour dresser un premier bilan. Mais voilà, c'est certain que Rudy Garcia et ses joueurs vont devoir sérieusement inverser la tendance parce que
Exactement.
même en Ligue des Champions, ouais, non, ça va être limite. Hein, c'est passé très 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 limite mercredi. Donc, attention à pas jouer avec le feu et. Et voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Italie, le
Ouais.
sentiment est quand même, voilà, de pression pour les Garcia.
Exactement. Voilà qui boucle notre épisode sur ce Bologne-Napoli. Guillaume, on refera des petits épisodes, un débriefing de match, parce qu'on aime bien faire ça, évidemment. Tout en continuant à faire ce sur l'actualité. On se dit à très vite, n'oubliez pas les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Et puis à très vite, Guillaume, pour un nouvel épisode de Catch UPP. On ne sait pas, actu, débriefing, on a le temps de se décider. À très vite, Guillaume. Ciao, ciao.
Ciao à tutti.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.